VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Assad choked out the lives of helpless men, women and children.
Assad a arraché la vie à des hommes, femmes et enfants sans défense. Le président Donald Trump, hier soir en Floride, après l'attaque américaine contre une base aérienne syrienne, a en représailles à l'horrible attaque à l'arme chimique imputée aux forces du président Bachar al-Assad et qui a coûté la vie à une centaine de civils, dont une trentaine d'enfants, en Syrie cette semaine. Au micro, Idrissa Sedoudia, en compagnie de Timothée Donangmaï, en ce vendredi 7 avril 2017. Bonjour. Les États-Unis ont tiré une cinquantaine de missiles Tomahawk sur la base aérienne syrienne de Sheirat, dans l'ouest de la Syrie. Pour la télévision d'État syrienne, ces frappes américaines constituent une agression. Mais Donald Trump a affirmé que les États-Unis défendent la justice. Édition spéciale de VOA Afrique consacrée essentiellement à ce développement. Pour commencer, l'attaque américaine, Timothée.
Il s'agit là, Idrissa, du premier assaut direct américain sur les forces du gouvernement syrien. Des dizaines de missiles de croisière Tomahawk ont été tirés à partir des destroyers américains en Méditerranée. Ils avaient pour cible, dit-on, une base aérienne dans l'ouest, en représailles donc à l'attaque à l'arme chimique imputée aux forces du président Bachar al-Assad, attaque qui a coûté la vie à une centaine de civils et lancée par l'aviation syrienne contre une ville tenue par les rebelles avec des gaz neurotoxiques du type sarin, pense-t-on. Après l'attaque, le président Donald Trump a dit à la presse et à la nation à Mar-a-Lago, sa résidence privée en Floride. Monsieur Trump a dit en substance qu'il avait ordonné cette action militaire ciblée dans l'intérêt national vital des États-Unis d'empêcher la prolifération et l'utilisation d'armes chimiques meurtrières. Il a qualifié l'attaque à l'arme chimique de cette semaine de très barbare, ajoutant qu'Assad a arraché la vie à des hommes, femmes et enfants sans défense. Pour Monsieur Trump, toutes les précédentes tentatives de changer depuis des années l'attitude du président Bachar al-Assad ont échoué et il a exhorté toutes les nations civilisées à œuvrer de concert avec les États-Unis pour arrêter le bain de sang en Syrie. Il s'agit là d'un grand changement dans la position de M. Trump qui, pendant sa campagne électorale, avait mis en garde contre une éventuelle implication des États-Unis dans la guerre civile syrienne, vieille maintenant de 7 ans. Mais le président américain a semblé être profondément bouleversé par la vidéo et les photos montrant les enfants tués dans l'attaque chimique, la qualifiant d'affront à l'humanité qui a dépassé trop de lignes. Le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson avait plaidé jeudi pour le départ de Bachar al-Assad en raison de l'attaque chimique présumée de mardi en Syrie, après avoir évoqué il y a une semaine le maintien au pouvoir du président syrien.
4 soldats syriens, dont un général de brigade dans l'armée de l'air, ont été tués dans les frappes américaines en Syrie, qui ont également détruit presque totalement la base aérienne du régime qui était visée, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'aéroport a été presque totalement détruit, le tarmac, le dépôt de fuel et le bâtiment de la défense aérienne ont été pulvérisés, a indiqué à l'AFP le directeur de l'Observatoire. La frappe a été menée avec 59 missiles, a précisé un responsable de la Maison-Blanche, indiquant que les États-Unis avaient frappé la base d'Al-Sheirat, qui est associée au programme syrien d'armes chimiques et directement liée à l'attaque chimique contre la ville syrienne de Khan Sheikhoun. J'ai contacté l'ancien secrétaire d'État adjoint américain Herman Cohen pour lui demander ce que cette frappe signifiait pour la politique du président Trump envers Bachar al-Assad et la Syrie.
Je crois que c'était nécessaire pour 2 raisons. D'abord, l'attaque même par les Syriens avec des produits chimiques contre des civils, avec des enfants tués, etc. Ça a créé un grand choc dans toute la population américaine. Deuxième choc, c'est qu'en 2013, président Obama a fait un accord avec président Poutine d'enlever tous les produits chimiques pour la guerre de la Syrie, donc pour trouver une solution de ne plus avoir des attaques chimiques. Donc c'était une grande surprise que les Syriens ont toujours gardé ça. Donc ce double choc a presque obligé président Trump d'agir.
Mais il y a quelques jours seulement, M. Trump et ses principaux collaborateurs, en tout cas, laissaient entendre que, de toute façon, c'était au peuple syrien, en quelque sorte, de décider du sort de Bachar al-Assad, ce qui veut dire qu'il n'envisageait pas d'ingérence dans les affaires syriennes.
Non, ça, c'était pas une attaque pour changer le régime ou pour chasser al-Assad. C'était pour punir qu'il a fait cette horrible chose avec les produits chimiques. Je crois que la politique reste la même. C'est pas les États-Unis qui vont changer le régime. Peut-être dans les instances internationales, nous allons commencer des discussions maintenant.
Mais comment est-ce que ça va affecter les relations que le président Donald Trump voudrait avoir la Russie, parce que la Russie reste le principal soutien de M. Assad en Syrie?
À mon avis personnel, je crois que cette attaque par les Syriens sur des civils innocents était aussi un choc pour Poutine, parce que Poutine a cru en 2013 qu'il a enlevé tous les produits chimiques. Donc les Syriens ont menti à M. Poutine. Donc, secrètement, j'ai l'impression que Poutine est content.
Il est content de cette attaque, mais est-ce à dire qu'il va lâcher les Syriens?
Pas nécessairement, mais maintenant, ça va le pousser, à mon avis, à vraiment avoir des discussions pour trouver une solution politique, parce que ça devient impossible pour tout le monde.
L'ancien secrétaire d'État adjoint américain Herman Cohn.
Pour parler de l'impact international des frappes américaines contre les troupes syriennes, je me suis entretenu avec Emilio Viano, professeur de sciences politiques à American University de Washington.
Il y en a ceux qui vont être d'accord avec la décision de Donald Trump. Et naturellement, il y en aura qui vont le critiquer parce qu'on pourrait parler du droit international et du droit d'un pays d'intervenir dans un autre pays sans le soutien du Conseil de sécurité. Mais je pense que, en général, il y aura un appui pour l'action de Donald Trump parce qu'il a été quelque chose de très limité, bien ciblé, bien exécuté. Je pense que peut-être on a même averti les Russes qu'il y aura cette attaque parce qu'il y a beaucoup de soldats, de techniciens en Syrie. Je pense qu'en général, il y aura un sentiment de soutien pour l'action parce que les images des enfants, des bébés, des femmes, de tout le monde qui a été tué par le gaz sarin a vraiment ému tout le monde.
Donc, selon vous, il n'y a pas de risque de confrontation directe entre les États-Unis et la Russie en Syrie?
Je ne pense pas, parce que c'est une action isolée, une action symbolique, envoyer un message, un avertissement, démontrer que les États-Unis sont très attentifs à ce qui se passe en Syrie, que Assad doit se comporter comme il a accepté quand il a eu l'accord avec la Russie sous la présidence du président Obama. Et ça, c'est ce que Trump a souligné ce soir, que Assad n'a pas respecté les décisions du Conseil de sécurité et qu'il doit le faire. S'il y aurait naturellement une campagne militaire, s'il y aurait des soldats envahissant le pays, c'est autre chose. Mais c'est purement symbolique, très limité. Cet aéroport est très petit. Il se trouve dans une région très isolée. Le dommage a dû être pas très important, à peine. Mais c'est le symbole, n'est-ce pas, que le président peut intervenir.
Est-ce que vous pensez que cette frappe va décourager le président Assad, va l'amener à changer de politique?
Ça n'est pas clair, ni sûr, ni certain, naturellement. Mais c'est un avertissement.
Le professeur Emilio Viano d'American University, ici à Washington.
Israël a aussi parlé de messages forts à l'Iran, à la Corée du Nord. Pour le professeur Souleymane Béchirdiagne de Columbia University à New York, le président Donald Trump n'avait pas le choix après les déclarations qu'il a faites cette semaine après l'attaque à l'arme chimique.
Il faut se demander, on verra plus clair dans les heures qui vont venir, si ça signifie quelque chose en termes de politique véritablement au Moyen-Orient et en Syrie en particulier. Il y a pour l'instant le geste auquel on pouvait s'attendre, parce que dès lors qu'il avait dit que les choses ne resteraient pas impunies, dès lors qu'il y avait eu une réaction assez vive en parole, et qu'il avait accusé le précédent président, c'est-à-dire le président Obama, de n'avoir pas fait suivre ses paroles d'actes, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait une action. Maintenant, quelle est la portée de cette action? Elle a une portée symbolique, c'est vrai. Il s'est attaqué à la base d'où on estime que les avions syriens qui avaient effectué le bombardement il y a quelques jours, c'est de cette base, en principe, que ces avions sont partis. Donc, le symbolisme est clair. Est-ce que maintenant, ça va aller au-delà de cette action symbolique? Est-ce que c'est vraiment direction politique nouvelle, un engagement plus accentué encore des troupes américaines, ça, on le verra dans les heures et les jours qui viennent.
Et comment est-ce qu'on devrait voir cette attaque à Moscou et à Damas?
À Damas, évidemment, ça tranche totalement par rapport à ce qui a été déclaré il y a quelques jours par le secrétaire d'État américain, disant en gros que le peuple syrien allait décider de son propre sort, ce qui était une manière de s'accommoder de Bachar al-Assad. Donc maintenant, est-ce que la Syrie va vouloir calmer le jeu et au-delà des réactions verbales, se rendre compte qu'il vaut mieux? Parce que là, au fond, cette attaque n'a pas grande signification militaire. On n'a pas détruit les capacités militaires ou aériennes de la Syrie. On n'a pas non plus fortement escamoté la puissance de feu de l'armée syrienne. Donc Bachar al-Assad peut simplement réagir verbalement et ensuite essayer de calmer le jeu.
Donc, maintenant, vous ne pensez pas qu'il y aura d'autres attaques américaines?
Je ne crois pas. Je crois que ce qui a été fait là permet au président Trump de se présenter comme quelqu'un qui fait suivre ses paroles d'acte. Je ne crois pas que ça aille au-delà. Bon, on verra dans les jours qui viennent, mais on peut penser que ce ne sera pas le cas. Surtout qu'il faut se demander qui est mort dans cette attaque. Est-ce que des Russes, par exemple, des conseillers russes qui seraient présents sur cette base ont été tués ou pas? Selon la réponse à cette question, les affaires pourraient prendre une tournure différente.
Le professeur Souleyman Bechirdjian de Columbia University à New York. Pour ce qui est des répercussions ici aux États-Unis du raid américain contre les troupes gouvernementales syriennes, j'ai contacté le professeur Edgar Colley de l'Institut d'études internationales de Monterey en Californie.
Sur le plan domestique, je crois que ça pourrait être quand même de quelques bons points qu'il gagnerait. Mais nous voyons ici quand même un revirement de position parce que Donald Trump a été clair. Il a déclaré à tous ceux qui voulaient l'entendre que le problème syrien n'était pas un problème américain. Mais des frappes par missile sans une intervention directe de l'armée sur le sol syrien quand même pourrait créer une situation où il serait vu comme un leader qui a pris une décision et qui a suivi de près ce qui s'y passe et qu'il est il est prêt à agir, ne serait-ce que pour sauver des vies humaines, surtout au niveau des civils. Sur le plan domestique, je crois que Trump pourrait gagner quelques points parce que si on voit les photos de ce qui se passe en Syrie, les gens sont quand même touchés et très émus, donc une réaction de ce genre pourrait être perçue comme la chose à faire.
Le président pourrait donc marquer quelques précieux points dans un contexte où il a eu beaucoup de difficultés avec sa réforme de l'assurance maladie et aussi toutes ces enquêtes concernant l'ingérence de la Russie, l'ingérence présumée de la Russie dans les élections passées.
Oui, fondamentalement, parce que si vous voyez le taux de popularité de Donald Trump, il est au plus bas. Et donc, ces échecs dont vous faites cas ne jouent pas en sa faveur. Et donc, il lui faut quelque chose très rapidement. Et je crois que la situation en Syrie, même si c'est une action humanitaire, lui donne quand même une certaine crédibilité en ce sens qu'il est un leader qui est prêt à défendre les déshérités, donc dans ce contexte, les civils syriens. Donc ce serait d'excellents points pour lui à un moment où il en a vraiment besoin.
Et quelle incidence de ces frappes sur l'enquête ici aux États-Unis sur l'implication présumée de la Russie dans les dernières élections américaines?
Je crois que ça ne va pas faire oublier ce qui se passe au niveau national. Parce que, comme vous l'avez probablement vu, le chef de ce comité au niveau du Sénat, qui était responsable des enquêtes sur ce que la Russie avait pu faire pendant les élections, M. Devin Nunes, le représentant de Californie, il s'est écarté du leadership. Donc, ces frappes ne vont pas occulter toutes ces enquêtes. Et donc, ça lui permet tout simplement, pendant quelques heures, de changer un peu la direction du discours national.
Le professeur Edgar Colley de l'Institut d'études internationales de Monterey en Californie. Pour le Kremlin, ces frappes américaines que Moscou qualifie d'agression contre un État souverain causent un préjudice considérable aux relations entre Moscou et Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition spéciale. Merci à Timothée Donangmaï.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoulia. Dans le reste de l'actualité, en Somalie, l'explosion d'une mine a fait au moins 14 morts dans la région méridionale de Basse-Chabelle. Morgan Guiriec nous en dit plus.
D'après la police, un minibus qui transportait 21 personnes a roulé sur la mine près de Golwayn. 3 enfants sont parmi les victimes. Les autorités accusent les Shabab. Ces insurgés islamistes se battent contre l'armée somalienne, épaulée par les forces de l'Union africaine pour le contrôle de cette zone. Cette tragédie est survenue quelques heures après que le nouveau président somalien, Mohamed Abdoulaye, élu le 8 février, a déclaré l'état de guerre aux Shebab, promettant de les attaquer et de libérer les zones qu'ils contrôlent. Il a également remplacé les chefs de l'armée, de la police et des services de renseignement, comme l'avait déjà fait son prédécesseur, Mohamed Abdoulaye, a dans le même temps promis une amnistie aux jeunes trompés par les Shebab qui quitteraient les rangs du mouvement sous 60 jours.
Ici aux États-Unis, la majorité républicaine du Sénat a modifié hier de force le règlement de l'institution afin d'imposer la confirmation du juge conservateur Neil Gorsuch à la Cour suprême. Précision d'Abdulrahman Dia.
Les républicains ont fait passer la majorité requise pour approuver un juge à la Cour suprême de 60 sénateurs sur 100 à la majorité simple de 51. La procédure est maintenant alignée sur la confirmation des juges d'instance inférieure et des responsables de l'exécutif. La règle des 60 voix est le garde-fou de notre démocratie et contre l'extrémisme judiciaire, avait plaidé en vain Chuck Schumer, chef de file des démocrates. Tous les démocrates ont voté contre, mais le changement s'est produit lors d'une série de votes hier matin au Sénat face à l'obstruction de la minorité démocrate. Le président Donald Trump avait vivement souhaité cette modification pour que Neil Gorsuch, nommé en janvier, soit confirmé. Son arrivée refera basculer la Cour suprême à droite avec 5 juges conservateurs et 4 progressistes. Neil Gorsuch sera confirmé lors d'un vote final ce vendredi et il est nommé à vie.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La plus grave crise de réfugiés d'Afrique s'aggrave de jour en jour au Soudan du Sud. Alors que la violence et l'insécurité alimentaire ravagent leur pays, des milliers de Sud-Soudanais traversent la frontière pour rejoindre l'Ouganda. Jill Craig est partie à leur rencontre dans le nord de l'Ouganda. Son reportage vous est présenté ici par Morgan Guiriec.
Le long de la frontière, dans le nord de l'Ouganda, les bus continuent d'arriver, acheminant de plus en plus de Sud-Soudanais. Les centres pour réfugiés sont leur nouvelle maison. À Busia, seule une petite passerelle sépare le Soudan du Sud de l'Ouganda. Les nouveaux venus arrivent souvent mal nourris, assoiffés et épuisés. Aboui John Tadeo, réfugié sud-soudanais. J'ai dû quitter Yéhi parce qu'il y a beaucoup de tirs et de pillages. Nous sommes donc fatigués et c'est pour cela que nous devions partir, pour nous reposer un peu. Beaucoup de ces nouveaux arrivants ont fui Yéhi et d'autres zones de la région d'Équatoria qui a connu d'intenses combats. Au total, plus de 816 000 sud-soudanais sont venus se réfugier en Ouganda, dont Suzanne Gouné. Je suis venue en Ouganda parce que la vie était dure et dangereuse. Nous ne bougeons pas parce que les gens nous tuent, nous poursuivent dans la brousse, brûlent nos maisons. Ici, nous sommes en sécurité. Ajoutez à la violence, la faim. Esther Akoudjo est une autre réfugiée. Il n'y a plus de nourriture, les gens sont affamés, il n'y a pas d'accès médical, il n'y a pas de route pour acheminer les vivres en ville. Lorsque les gens amènent la nourriture, les hommes armés s'en emparent et la population souffre. Trop souvent, leur périple pour arriver en Ouganda s'avère tout aussi difficile, comme en témoigne Rose Nyanga. Pendant 14 jours, nous avons marché jour et nuit, vivant de fruits sauvages et d'eau stagnante. Fabienne Richard Wany a marché pendant 10 jours avec sa femme, ses enfants et un groupe d'orphelins de Yéhi. Il n'a pourtant pas perdu espoir pour son pays. Je me tourne vers l'avenir du pays. Pour que nous ayons la paix, il faut que nous craignions Dieu. que les leaders acceptent leurs erreurs et voient la souffrance de leur peuple, afin que l'avenir soit radieux. En plus de la nourriture, l'eau, les produits non alimentaires, les services de santé et l'éducation des enfants, les réfugiés disposent d'un terrain de 250 mètres carrés dans les centres d'accueil ougandais. Une parcelle pour se mettre à l'abri et cultiver la terre.
Si vous êtes un réfugié en Afrique, l'Ouganda pourrait bien être votre meilleur pays d'accueil. Les nouveaux venus y voient une liberté de mouvement et les Ougandais, pour la plupart, les accueillent à bras ouverts. C'est un exemple unique sur le continent, nous dit Jill Craig, dans un autre reportage réalisé dans le nord de l'Ouganda et repris ici par Lionel Gahima.
Personne ne choisit de devenir réfugié, mais beaucoup sont forcés de le devenir. Ils fuient la violence dans leur pays d'origine, subissent de restrictions dans leur pays d'accueil et souvent dépendent des autres pour manger ou se soigner. L'Ouganda accueille plus d'un million de réfugiés et de demandeurs d'asile. Le pays essaie d'atténuer leur souffrance avec ce qu'il présente comme une politique progressiste vis-à-vis des réfugiés. Solomon Osakan, un responsable du bureau du premier ministre ougandais, travaille avec les agences humanitaires onusiennes pour coordonner les actions en direction des réfugiés. Selon lui, l'approche ougandaise s'inspire d'un concept panafricain d'aider les Africains en difficulté, particulièrement les voisins venus du Soudan du Sud, de la République démocratique du Congo ou du Burundi. Je pense que cette politique émane de nos leaders. Dans une vie antérieure, beaucoup d'entre eux ont été déplacés ou réfugiés. Ils avaient trouvé asile dans des pays voisins et parfois sont partis jusqu'en Europe. Cela a changé leur perception, les amenant à comprendre que le réfugié a besoin de soutien pour survivre et que l'hostilité ne fait qu'empirer les choses. L'Ouganda accueille les réfugiés non pas dans les camps, mais dans des centres érigés sur des terres données par les communautés locales. Chaque réfugié reçoit un lopin de 250 mètres carrés pour bâtir un abri et cultiver. Il est libre d'aller et venir, a une autorisation de travail et peut même lancer son propre business. Joyce Alua est venue du Soudan du Sud. C'est bien, ici en Ouganda on se sent bien, il n'y a pas de combat comme au Soudan du Sud et il y a d'autres bonnes choses. Mais tout le monde n'est pas aussi satisfait. Près de la ferme Ivimpi récemment ouverte, certains autochtones comme Charles Assema se plaignent de ces étrangers. La mauvaise chose ici, c'est le manque de travail. Ceux qui sont là ne nous donnent pas du travail. Malgré sa frustration, Charles Assema est quand même heureux que son pays accueille les réfugiés par amour de Dieu. Pour le gouvernement ougandais et les Nations Unies, beaucoup d'emplois demandent des compétences qu'on ne trouve pas toujours chez les autochtones. Cependant, plusieurs réfugiés se plaignent de pénuries alimentaires. Les Nations Unies citent un manque de fonds. L'année dernière, les rations alimentaires ont été réduites de moitié pour les réfugiés arrivés avant juillet 2015, à l'exception des plus vulnérables. Les Nations Unies avaient lancé un appel en vue d'obtenir 500 millions de dollars pour leurs opérations en Ouganda, mais à la mi-mars, l'ONU n'a reçu que 35 millions de dollars, c'est-à-dire même pas le dixième de fonds nécessaires.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
La Minute Éco, Jacques Aristide.
Le groupe néerlandais Heineken vient d'ouvrir une nouvelle brasserie ultramoderne en Côte d'Ivoire. L'usine, au coût de près de 160 millions de dollars, a été bâtie dans la nouvelle zone industrielle au nord d'Abidjan. Elle vient briser les 50 ans de monopole dans le secteur de la bière, détenu jusque-là par le groupe viticole français Castel, très implanté en Afrique francophone. Heineken produit et vend plus de 200 marques de bière et de cidre et emploie 70 000 personnes dans le monde. Une équipe du Fonds monétaire international effectue à partir d'aujourd'hui une mission de 10 jours en Tunisie pour évaluer l'avancée des réformes dans ce pays confronté à d'importantes difficultés économiques et sociales 6 ans après sa révolution. Unique rescapée du printemps arabe, la Tunisie a obtenu en mai dernier une nouvelle ligne de crédit auprès du FMI d'un montant de 2,9 milliards de dollars sur 4 ans en échange d'un programme de réforme qui a toutefois pris du retard. Le gouvernement nigérian veut emprunter 1,3 milliard de dollars auprès des bailleurs internationaux pour financer la nouvelle banque de développement du Nigeria afin de venir en aide aux petites et moyennes entreprises. Si le Parlement approuve le projet, Abuja fera appel à la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque allemande KfW et à l'Agence française de développement.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Nouveau classement FIFA, le Brésil prend la tête.
Le Brésil s'est emparé de la première place du classement FIFA après 7 ans d'absence à ce niveau. On rappelle que le Brésil est la première nation qui s'est qualifiée pour le Mondial 2018. L'Argentine devient deuxième. L'Argentine en difficulté dans les éliminatoires de la zone AM Sud. Les Argentins qui perdent une place mais qui restent devant l'Allemagne troisième. L'Allemagne championne du monde en titre et le Chili quatrième. La Colombie reste cinquième. À noter les progressions également de la Suisse qui fait son entrée dans le top 10 à la 9e place. La Belgique est 7e et perd 2 rangs. Quant à l'Uruguay, le pays s'effondre. Le pays est maintenant 15e, moins 6 places. Sur le continent africain, l'Égypte, finaliste de la dernière CAN, reste solide leader continental avec une place gagnée, 19e rang. Suivent le Sénégal, 30e, le Cameroun, 33e. Le Burkina Faso, demi-finaliste de la CAN 2017, poursuit son ascension, 35e. Les plus belles progressions sont à mettre à l'actif des petites nations, telles que le Kenya, 78e, plus 10 places. Le Swaziland, 88e, ou la Mauritanie, 90e, plus 16 places pour les Morabitounes qui rentrent pour la première fois dans le top 100 mondial.
La FIFA a levé la sanction du Qatarien Saoud Al-Mohanadi.
Il est vice-président de sa fédération comme de la Confédération asiatique. Saoud Al-Mohanadi avait été suspendu 1 an de toute fonction dans le football suite à son appel. Il a donc obtenu gain de cause auprès de l'instance mondiale du football. Le dirigeant qatari avait été sanctionné en novembre dernier par la chambre de jugement du comité d'éthique de la Fédération internationale pour, je cite, non-coopération et non-délivrance d'informations réelles dans le cadre d'un dossier non lié à l'attribution du mondial 2022 au Qatar. Allez Idrissa, avec vous quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Chicago et Philadelphia 102-90, Brooklyn Nets et Orlando 107-115, Milwaukee et Indiana 89-104, Washington et New York Knicks 106-103 et Boston et Atlanta 116-123.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons de la dépigmentation volontaire de la peau.
De plus en plus, les femmes africaines et quelques hommes s'éclaircissent la peau pour des raisons esthétiques, en faisant recours aux produits cosmétiques et même à des injections de produits thérapeutiques.
Pour en parler, nous recevrons comme invité le docteur Véronique Kakiesé. Elle est chef du service de dermatologie aux cliniques universitaires de Kinshasa et nous expliquera les risques liés à la dépigmentation volontaire.
Nous écouterons le témoignage du professeur Mohamed Cissé, chef de service de dermatologie au centre hospitalo-universitaire de Donka en Guinée-Conakry. Il abordera les questions liées à la régulation des produits éclaircissants.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30 temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Alberson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction, Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.